Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens, sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui es vivant, toi qui es la vie. Seigneur, étends ta main sur nous, souffle sur nous ton Saint-Esprit, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et nos intelligences. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, une femme est guérie en touchant les franges du manteau de Jésus, les tzitzit. Mais pourquoi Jésus porte-t-il des franges, les tzitzit? Eh bien, parce que c'est un devoir pour un juif d'en porter. Elle lui rappelle Dieu et ses commandements. Toucher la frange de son manteau, c'est comme prendre en main un chapelet, un dizainier, c'est chercher intérieurement le contact avec Dieu. Chacun d'entre nous, je suppose, a ses petits trucs pour se souvenir de ce qu'il ne doit pas oublier et pour y penser au moment opportun. Certains peut-être font un nœud à leur mouchoir, d'autres écrivent quelque chose sur la paume de leur main, enregistrent une alerte sur leur smartphone. Eh bien, Dieu lui aussi définit des aides-mémoires qui rappellent aux croyants que Dieu est là et qui ramènent le croyant vers son cœur. Vous vous souvenez dans la Genèse, au moment où est créé l'arc-en-ciel, Dieu le définit comme le souvenir de l'alliance scellée pour toujours entre Dieu et Noé. Quand nous voyons un arc-en-ciel, nous sommes invités à penser au moment de la création. L'Église fait de même pour garder présent nous le oui de Marie et le mystère de l'incarnation. L'Église nous propose la prière de l'Angélus. Trois fois par jour, les cloches sonnent pour nous y inviter. Dans les monastères et dans les églises paroissiales, dans beaucoup de pays, on fait aussi sonner la cloche au moment de la consécration, à l'élévation du pain et du vin. Pourquoi ? Eh bien, pour que ceux qui sont retenus à l'extérieur de l'Église puissent, le temps d'un instant, s'arrêter et s'unir à ce qui est célébré, se recueillir et, en leur cœur, adorer Dieu qui descend sur l'autel. Dans certaines communautés, c'est à chaque heure qu'il y a une cloche qui sonne pour que chacun puisse prendre une minute, quel que soit le travail en cours, pour se recueillir, se replacer sous le regard de Dieu, le retour à soi. Beaucoup de baptisés, très discrètement, font sonner leur montre chaque heure pour pouvoir vivre cette petite pratique du retour à soi. Cette pratique porte beaucoup de fruits lorsqu'on y est fidèle. C'est pour cela que, en cette année de la prière, vous me permettrez d'en proposer un modèle. Peut-être que, ne sais-vous, avez-vous entendu parler du bienheureux Estéphane Némée. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être pas étonnant parce qu'il n'a pas fait des choses extraordinaires qui l'ont singularisé. Il est mort en 1938, mais quand 13 ans après sa mort, on a été obligé d'ouvrir sa tombe, on a été stupéfait de voir que son corps était intact. Alors, on a commencé à faire des recherches sur sa vie et bien sûr, on s'est mis à le prier. Et on a obtenu des miracles assez impressionnants par son intercession. Lorsqu'on a interrogé les personnes qui l'avaient connu, elles ont partagé que ce qui était étonnant chez ce moine, c'est que toute sa spiritualité était axée sur un mot d'ordre très simple. Dieu te voit. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est là près de toi pour te soutenir et t'éclairer. Dieu te voit. Même quand tu n'es pas fier de toi parce que tu as chuté, il pose son regard de miséricorde sur toi. Dieu te voit même quand tu te sens abandonné de tous en situation désespérée. Ses yeux pleins d'amour ne te quittent pas. Pourquoi craindrais-tu? Pourquoi ne pas t'abandonner? quand un acte de charité, quand un pardon coûte beaucoup d'efforts, Dieu te voit, ton effort n'est pas vain. Pour le bienheureux et Stéphane aimé, la pensée « Dieu te voit » ne signifiait pas « le gendarme te surveille », mais elle renvoyait à cette parole dite à Abraham « marche en ma présence et sois parfait », c'est-à-dire « sois un homme accompli ». Pour ce bienheureux, les tzitzit qu'il touchait, c'était cette phrase qu'il se redisait sans cesse, « Dieu te voit ». Cette pratique l'a conduit à la sainteté, une sainteté cachée, mais une sainteté impressionnante. Alors, peut-être pouvons-nous nous aussi fixer les yeux sur les tzitzit de Jésus et choisir un moyen concret permettant de les toucher. Mais revenons à l'Évangile. Saint Matthieu nous parle d'une femme guérie parce qu'elle est arrivée, malgré la foule et la bousculade, à s'approcher suffisamment du Christ pour toucher les franges de son manteau. Or, en réponse, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Cette femme avait donc reçu un don de foi, non pas en sa possible guérison, mais au fait qu'en touchant les tzitzit de Jésus, elle entrait en contact avec Dieu lui-même. À Lourdes, les pèlerins touchent le rocher au-dessus duquel Marie est apparue. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas magique. Ils expriment leur désir d'entrer en contact avec la présence de Marie qui demeure dans cette grotte. Matthieu ne nomme pas la femme qui a été guérie, et c'est une indication. Cela veut dire que chacun d'entre nous est invité à se reconnaître en cette femme, mais ça signifie aussi qu'elle symbolise le peuple d'Israël et l'Église. Jésus a senti une force le quitter et il cherche du regard celle qui en a été le bénéficiaire. Il l'oblige à se faire reconnaître et à témoigner. Or, vous devinez que pour cette femme, témoigner l'exposait dangereusement, parce que quand on a des pertes de sang, on porte une impureté rituelle, et toutes celles et ceux qui avaient été touchés par elle dans la bousculade, quand elle avait cherché à s'approcher de Jésus, toutes ces personnes aurait pu l'accuser de lui avoir communiqué cette impureté rituelle. Mais si Jésus lui impose en quelque sorte cette humiliation, c'est que son témoignage est nécessaire pour sceller sa guérison. Permettez-moi de l'illustrer. À Lourdes, vous savez que la coutume voulait que lorsqu'on avait été guéri, on laissait ses béquilles à la grotte en témoignage. Or, un homme qui était boiteux et qui devait céder d'une canne, arrivé devant la grotte, avait lui aussi senti une force entrer en lui et il ne boitait plus. Alors, les brancardiers qui assuraient le service ont voulu prendre cette canne et l'attacher sur le rocher au milieu de la multitude des béquilles qui étaient là. Mais cet homme a refusé de donner ce témoignage de sa guérison parce que cette canne était incrustée de pierres précieuses et avait beaucoup de valeur. Malheureusement, en rentrant chez lui, il s'est remis à boiter sans ce témoignage qui achevait l'acte de foi. Sa guérison n'avait pas pu aller à son terme. Eh bien, c'est exactement à l'image de ce que l'Église doit vivre pour être guérie et renouvelée. L'Église est sans cesse purifiée par le sang du Christ, mais pour que sa guérison soit effective, et prennent toute son amplitude. L'Église doit témoigner, elle doit redevenir missionnaire. Et c'est valable pour chaque baptisé, frères et sœurs. Il n'y a pas de croissance spirituelle durable sans cette détermination au témoignage. Témoigner de sa foi auprès de ses proches, à travers des choses concrètes, comme le témoignage de guérison par une canne accrochée, mais aussi rendre compte de sa foi à celles et ceux qui nous interrogent. Enfin, après avoir guéri cette femme, Jésus est allé ressusciter la fille du chef de la synagogue. Et il nous donne une image magnifique. Il a saisi la main de cette fille et lui a dit « Talitha cum », c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Là encore, la jeune fille n'est pas nommée. Chacun d'entre nous, un jour, s'endormira comme elle. Et chacun de nous sera sorti du sommeil de la mort par Jésus, qui saisira notre main, qui nous appellera par notre nom et nous dira « Lève-toi, entre dans la vie, entre dans le bonheur éternel, en ce lieu préparé pour toi auprès du Père ». En cette Eucharistie, en ce dimanche, puisse l'Esprit du Seigneur nous donner de grandir dans l'intimité et le cœur à cœur avec le Christ, qu'il puisse fortifier notre foi en ses promesses et de nous redonner le bonheur, la joie, la fierté du témoignage. Amen.